Beaucoup d'adeptes de la motocyclette au Québec, des motocyclistes, il y en a de plus en plus. C'est devenu un beau projet, un beau hobby là, pour tous ceux qui entrevoient une retraite ou une semi-retraite. Et puis, il y a tous ceux qui s'en servent de leur moto comme moyen de transport. Une journée comme aujourd'hui, un peu pluvieuse, évidemment, il faut faire encore plus attention parce que l'ayant pratiqué moi-même, déjà la moto, je sais que ça peut être assez glissant. Il faut avoir le contrôle de son véhicule. C'est un enjeu. C'est un véhicule au même titre sur les routes là, que n'importe quel autre véhicule autoroutier. Donc, il faut y faire très attention. L'état de nos routes, on va en parler, j'imagine, avec le président de la Fédération motocycliste du Québec, Sylvain Bergeron, parce que l'état des routes contribue sans doute au fait à cette série d'accidents de moto. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais depuis le début de l'année, puis c'est pour ça que je veux en parler, depuis le début de la saison, en fait, depuis les dernières semaines, il y a eu plusieurs accidents graves à moto. Il y a eu au moins, d'après mon petit comptage ce matin, au moins trois motocyclistes ont perdu la vie. C'est assez important pour se poser des questions. C'est un début de saison assez inquiétant. Sylvain Bergeron est avec moi. Bonjour, M. Bergeron.
Bonjour, madame. Ça va très bien.
Vous êtes président, oui. Vous êtes président de la Fédération motocycliste du Québec. Vous roulez à moto, vous, depuis tellement longtemps. Hein? C'est comme... vous avez roulé un peu partout, en Europe, entre autres. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que chaque année, c'est un peu la même chose. On en parle, on dit à tout le monde, faites attention sur vos motos. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est parti de façon encore plus inquiétante.
Bien, c'est évident qu'avec un... beau début de saison comme on a eu, ben les motos se sont retrouvées sur le chemin rapidement. Et avec ce qu'on connaît comme situation avec la pandémie, ben les gens sont contents de se retrouver sur la route. Mais par contre, la route, malheureusement, est peut-être pas disons propre à la consommation. Il y a une question de débris sur les routes. Il y a une question, il fait beau, ça nous donne un faux sentiment de sécurité. On recommence là où on a laissé l'an passé. Et puis, finalement, ben il faut se rappeler qu'on a quand même encore des réflexes d'automobilistes. Donc, il faut repérer les risques comme un motocycliste, qui n'est pas toujours évident. Faut adapter la conduite. Et comme vous l'avez si bien dit, la condition de nos routes contribue certainement pas à améliorer les choses.
Oui, effectivement, parce que là, il y a toutes sortes de choses sur les routes. Il y a les débris, là, le sel, le gravier, les fameux nids de poules, si les automobilistes s'en plaignent. Mais là, pour un motocycliste, là, c'est carrément un danger public, ça.
Bien, c'est sûr qu'il faut regarder où on va aller. Hein. Fait que la vision, tout est là. Parce qu'en plus de conduire la moto, de reprendre le maniement de la moto, parce que c'est nous qui sommes sur la moto, là, c'est nous qui guidons le bolide. Il faut regarder où on va, il faut regarder la surface, il faut regarder notre positionnement aussi dans la circulation, pour éviter les angles morts des autres véhicules, on s'entend, on parle toujours des autres usagers de la route, mais en même temps, il faut se placer. Mais en partant, il faut vraiment savoir comment utiliser notre moto pour qu'on puisse la manier, puis sécuritairement, ça c'est clair. Puis adapter la conduite aux surfaces. Ceux qui font de la moto hors route ou double usage, ben ils sont habitués d'avoir une surface instable. Tandis que sur la route même, ben un nid de poule, un cratère, des fissures, on s'entend que c'est des obstacles qui peuvent être très embarrassants puis qui peuvent certainement contribuer à une perte de contrôle.
Oui, puis ça ne pardonne pas, hein, parce que quand on est dans un véhicule et qu'on le ressent dans notre corps, dans notre dos, imaginez quand on est à moto, surtout que les motos d'aujourd'hui, c'est des petits bolides, M. Bergeron.
Oui, c'est des petits bolides, c'est pesant. Puis au Québec, ben on est la population au Canada où il y a le plus de motos. Hein, on est reconnu pour ça. Malgré qu'on ait une saison quand même écourtée à cause des lois de pneus d'hiver, mais en même temps, on s'entend que durant cette période-là, c'est pas tout le monde qui se promènerait. Hein. Mais quand ça recommence au printemps, faut vraiment faire gaffe en même temps aux autres usagers qui ne nous ont pas vus de l'hiver. J'ai regardé justement, quand on m'a demandé de participer à la émission ce matin, j'ai fait une petite prévision, puis et on a déjà deux ou trois là. Qui implique un autre véhicule. Et puis là, dont un qui recule de son entrée, puis que ben le motocycliste, a frappé plein fouet.
Sur la 125, c'est ça? Mm-hmm.
Oui, bien, il faut toujours se demander, en tant que motocycliste, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? La personne qui est assise sur la moto, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'on n'est pas juste un paquet, hein? On a quand même une action, hein? C'est nous qui dirigeons la moto, finalement. Alors, c'est là que le sens de l'anticipation prend tout son sens. On arrive à une intersection, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le droit de passer, je passe, ou je ralentis, ou vous savez, il y a des comportements plus sécuritaires que d'autres. Puis en même temps, ben oui, on se rend compte que malheureusement, dans les autres accidents, souvent les gens sont seuls.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de pertes de véhicules, de contrôle
oui.
Par le motocycliste. Là.
Le motocycliste en soi, il est captivé là, par tout l'environnement, la surface, le bruit, puis un peu, on va dire, l'exaltation de conduire une moto, parce qu'on s'entend, la moto, c'est vraiment plaisant à conduire, surtout si on a un sentiment de bien la conduire, mais on est tout le temps un peu un mauvais juge de soi-même. Hein. Bon, des fois, peut-être qu'on se pense... en contrôle, quand finalement, on ne l'est peut-être pas tout le temps, mais ça, on le sait juste quand arrive un inconvénient, quand arrive un obstacle et qu'on réagit correctement.
Ouais.
Mais la plus grande tactique, c'est évidemment de ne pas se retrouver dans un mauvais coin, dans un mauvais positionnement.
Ouais, ouais. On va parler à Gérard, qui est un motocycliste depuis longtemps. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien. J'imagine que vous aviez vu ça, là, on commence à parler d'accidents de moto en Syrie, au Québec, puis on est à la mi-avril aujourd'hui. Quand vous voyez ça, Gérard, vous vous dites quoi, vous?
Bien, premièrement, je salue M. Bergeron. Je suis membre de l'Association des motocyclistes du Québec, en passant.
Merci beaucoup.
Là, nous autres, ils ne nous considèrent pas comme des motocyclistes. Moi, j'ai un Spider, qu'on appelle, un bicycle à trois roues, OK? J'ai déjà eu un bicycle à deux roues. Il faut faire une grosse différence. On a les spiders à trois roues, qui est beaucoup plus sécuritaire qu'une motocycliste à deux roues.
Mais oui.
Moi, qu'est-ce que je trouve? La première chose, c'est que faut que tu sois, tes lumières, il faut que tu sois toujours allumé sur les hautes. Mais qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est quand je vois les demoiselles ou les gars habillés en short, tout ça, sur des motos sport qu'on appelle, que ça roule, excuse-moi l'expression, à côté la braquette. Puis là, je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas. Si, comme on dit un bon Québécois, si il fouille, là, ça va se faire mal, tu sais. Donc, il y a trois sortes de motocyclistes. Nous autres, les gars en spider, ben, on est quand même assez prudents parce que, comme on dit, c'est des papis, hein. 50, 60, 65.
Ouais. Dans ces années-là, on prend pas de chance, on s'est rajouté une roue de plus.
C'est en plein ça. Là, j'ai déjà eu une moto à deux roues. Sauf que c'est ça. Soyez, faut qu'on les lumières toujours sur les hautes. Et aussi, très important que le monde pense pas à l'habillement. Les bonnes bottes, tu sais, un bon habillement. Tu veux faire de la moto, ça coûte quand même entre 25 et 30 000 une moto.
Ouais.
OK? Donc, quand t'es rendu que tu commences à regarder pour une paire de bottes puis tu vas chialer pour un 200-300 $, excuse-moi, il y a un problème. Puis comme il disait M. Bergeron tantôt, il dit la saison est courte. Mais pour faire une petite parenthèse, c'est moins court que la motoneige, vu que j'étais un adepte de la motoneige. Mais c'est ça, l'habillement, c'est très important. On dirait que le monde ne nous voit pas en moto. J'ai quand même un spider qui est assez gros. Puis tu arrives sur une lumière, la lumière tombe verte, tu regardes à gauche, à droite, je fais toujours attention. Puis là ou l'autre, il va te passer en avant ou il va te couper. Christy, je pèse 200 livres, j'ai une moto qui est quand même assez grosse, qui est blanche en tout. Mais la personne ne te voit pas. Donc, nous autres, il faut qu'on fasse attention. Il faut faire attention, comme il dit, les animaux. Les routes au printemps, c'est faire très attention parce qu'il y a encore du sable, de la poussière. Puis pour les deux roues, c'est encore beaucoup plus dangereux que pour nous, les trois roues. Donc, c'est tout ça. Puis comme il dit, l'environnement, tu sais, tu t'en vas, tu peux avoir un chien. Puis surtout, on se promène, nous autres, dans la campagne parce que c'est ça qui est agréable en moto, c'est se promener en campagne. Donc là, tu peux avoir n'importe quelle sorte d'animaux, quelqu'un qui recule avec son tracteur. Donc, il faut tailler les yeux pas mal tout autour de la tête, mais de faire attention. Nous autres, il faut qu'on ait des responsabilités, mais les automobilistes aussi ont des responsabilités.
Ouais.
Donc ça, c'est ce qu'on partage.
Fait que vous dites, c'est surtout la distraction, Gérard, dans le fond, vous dites, là, qui est le
beaucoup,
problème. De tout le monde, un peu, sur la route.
Oui, mais tu sais, le monde écoute la musique, tu t'en vas en moto, ah, ben tu sais, mais écouter de la musique, c'est le fun d'écouter de la musique dans ton casque, tu sais, il n'y a pas de trouble, mais il faut que tu sois attentif parce que ça prend pas grand-chose, une petite musique un petit peu rock'n'roll, ah, tu pousses un petit peu la poignée, c'est cool, la route va bien, tu sais, tu perds un petit peu la notion du temps, puis ça, c'est super dangereux, ou puis aussi, quand tu roules des fois sur une belle grande route, mettons, tu prends une autoroute pour aller à la campagne, ben à un moment donné, ça vient, c'est comme hypnotisant, tu t'en vas, puis là, tu t'en vas là, puis la vie est belle, on dirait que tu fais plus...
L'odeur des champs de trèfle l'été quand il fait beau en fin de journée. Y a-tu quelque chose qui bosse? C'est formidable. Mais bon, c'est vrai qu'il faut être là, faut être présent, hein. Faut éviter de se distraire. Puis ça, je pense qu'en moto ou n'importe quel véhicule, vous avez tellement raison de le rappeler, Gérard. Faut être maître de ses mouvements, être en contrôle, avoir les yeux partout autour de la tête. Puis c'est vrai, l'habillement en moto, t'sais, dans ta voiture, tu peux t'habiller comme tu veux, mais en moto, puis ça, moi, j'ai payé pour apprendre, je peux vous assurer que je l'ai vécu. Une journée comme aujourd'hui, là, tu sais, où il y a plu, puis là, soudainement, la pluie arrête, mais tu penses que t'es correct, puis là, tu tournes le coin d'une rue, t'as chaud quand même, parce que, bon, peut-être un peu plus chaud qu'aujourd'hui, là, je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé, je venais d'enlever mon manteau de cuir, là. Puis c'est pas pour rien que les motocyclistes sont habillés en cuir, normalement, c'est parce qu'au moins, quand tu glisses puis que tu frottes, c'est pas ta peau qui est en contact avec l'asphalte. Je venais d'enlever ma veste, là. J'étais donc en T-shirt. Oui, je sais, là. Pas brillant. Je l'ai faite. Bon. Mais je me suis ramassée. Je peux vous dire, j'ai eu une cicatrice pendant plusieurs années qui m'a rappelé à quel point il faut avoir toute sa tête. Puis même quand on est à moto, il faut avoir les vêtements en conséquence puis faire vraiment, vraiment, vraiment attention. On va s'arrêter ici. On a Patrick qui est un moniteur depuis très longtemps qui va nous dire comment il voit ça. S'il y a des motocyclistes qui nous écoutent, dites-nous là, comment ça se passe pour vous ce début de saison. Et surtout, quelle est votre réaction par rapport à tous ces accidents? Les cours de moto sont-ils à la hauteur? C'est un peu toujours ça aussi qu'on se dit. Monsieur Bergeron, qui est président de la Fédération motocycliste du Québec, vous restez avec nous. On vient tout de suite après. Nos numéros, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. M'as-tu sorti Brigitte Bardot, Max? Non? Hey, dites piaf, bien sûr! Brigitte Bardot d'ici la fin de la discussion. À tout de suite.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
Patrick est avec nous. Bonjour Patrick, merci de nous appeler. Vous êtes moniteur depuis très longtemps. Moniteur depuis très longtemps pour les gens là, qui font leurs cours de moto, j'imagine?
Oui, puis maintenant, j'ai terminé il y a 2 ans bien maintenant, mais j'ai enseigné longtemps. Moi, je trouve que la problématique de base, c'est qu'on émet des permis beaucoup trop facilement. Mm. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui y avaient de la misère à embarquer sur une voie rapide.
Ouais.
Puis on embarquait sur l'autoroute à 40-45, puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Là. Quand on a un 45 pieds qui s'en vient 110-120, c'est pas un signe de prudence d'embarquer tranquillement. Donc, j'ai essayé de pointer ça longtemps, mais c'est difficile. On sait qu'aujourd'hui, les sous, c'est bien, bien important.
Dites-moi, c'est combien d'heures, Patrick, pour apprendre à conduire une moto puis avoir son permis moto?
Bien, ils ont changé ça dernièrement. Ça a changé l'année passée ou l'année d'avant. Moi, dans mon temps, moi, c'était 4 cours pratiques de 4 heures en circuit fermé. C'est encore la même chose, je crois. Avec 2 routes. Une route en ville de 2 heures, puis une route sur l'autoroute de 2 heures.
Mm-hmm.
Maintenant, ils ont rajouté 4 routes sur le circuit. Mais le point est qu'on peut rajouter des routes, on peut rajouter des cours tant qu'on veut si la personne n'a pas les habiletés pour conduire une moto. Je suis désolé. Puis le monsieur qui parlait avant, j'ai pas tout écouté parce que je parlais avec votre chercheur.
Mm-hmm.
Mais de cataloguer les motos, un Spider, c'est ici, un Sport Bike, c'est ça. Je suis désolé, mais encore là, j'embarque pas dans ça.
Ouais.
J'en ai suivi un monsieur hier avec un Spider embarqué sur l'autoroute à 65 km. C'est pas un signe de prudence.
Ah ouais. On doit embarquer à quelle vitesse?
Ben, on doit embarquer à minimum 90 pour suivre le flot.
Mm-hmm.
Pour suivre le flot du trafic. Puis moi, je mets beaucoup l'emphase de la QTR. Je suis membre de la QTR. Puis la QTR me dit que c'est qui la contrôle, la moto? C'est la personne qui est assise dessus. Donc, qu'on ait une motosport, qu'on ait un custom, qu'on ait un Harley, un Spider, nommez-les. C'est pas la moto qui est dangereuse, c'est la personne qui est dessus.
Ouais. Mais là, vous dites 90 là, pour embarquer sur l'autoroute, mais normalement, c'est 70 même, les limites de vitesse. Est-ce que vous voulez dire?
Une autoroute à 5 km/h. Une autoroute qu'on roule 5 km/h.
Ouais.
On prend une bretelle d'autoroute et on embarque sur la 15. Là. Si on s'engage dans votre droite à 65, on a un problème.
OK. Mm.
Vont regarder les véhicules qui viennent en arrière et ils sont pas contents. Là.
Mm.
C'est sûr que ça vient vite. Il faut s'engager à la vitesse du trafic.
Ouais. Ben, y en a, soit il y en a qui roulent trop lentement par prudence, supposément, ou il y en a qui roulent trop vite puis qui font du slalom entre les véhicules. Ça, c'est l'autre chose.
Il y a deux gammes. Moi, ouais. Je pense qu'on devrait ajuster les enregistrements selon le conducteur et non pas selon la machine. Moi, j'ai deux sortes de machines. J'en ai une qui me coûte 2200 de plat. Je l'ai mis à vendre dernièrement, d'ailleurs. Puis l'autre me coûte 600. Pourtant, c'est le même gars qui est dessus, là.
C'est la même personne
qui conduit, mais on se trouve qu'on catalogue un petit peu trop, là. Je pense qu'on devrait arrêter aussi de laisser conduire. Puis je parle contre moi un peu aussi. J'ai 57 ans. Les gens qui ont le permis depuis toujours, qui n'ont pas conduit une moto depuis 30 ans, puis qui rembarquent là-dessus.
Il faut refaire un petit cours, là, hein, vous diriez.
C'est dangereux, ça. C'est vraiment dangereux.
Il y a merci beaucoup, Patrick. Il y a un des jeunes, justement, de 32 ans, un homme de 32 ans qui est mort à la suite d'une embardée. C'était dans la région de Portneuf, là. Apparemment, selon la Sûreté du Québec, il n'y avait pas de permis adéquat là, pour conduire ce genre de moto. Ça, c'était dernièrement, là, il y a quelques jours. Fait que c'est sûr que ça fait partie aussi là, des enjeux qui sont reliés aux accidents. Sylvain Bergeron est avec moi. Il est président de la Fédération motocycliste du Québec. Monsieur Bergeron, sur justement les cours et tout ça, vous avez eu l'occasion de vous prononcer là-dessus, le fait qu'on ait rajouté des routes pour essayer peut-être de faire en sorte que les gens soient plus habiles ou en tout cas aptes à conduire la moto. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Est-ce que les cours de moto sont assez adéquats au Québec?
Bien, écoutez, il faut faire très attention quand on porte un jugement. Je voudrais certainement pas porter un jugement là, qualitatif parce que on sait qu'il y a de très bonnes écoles qui vont vraiment s'occuper des gens. Puis les gens qui vont sortir de leurs écoles à eux, ils vont être vraiment mieux préparés. Parce que finalement, le permis vous donne accès au réseau routier. Hein. Ça fait pas de vous des motocyclistes aguerris. Ensuite, il y a d'autres écoles qui ont la pression de produire et que, bon, il faut que ça passe au test. Alors, il y en a qui vont préférer encadrer les gens d'une façon très stricte pour qu'ils puissent réussir l'examen de la SAC. Puis là, ben on les retrouve sur la route, ces gens-là. Puis il y a toutes les zones grises entre les deux extrêmes. Maintenant, une fois sur la route, faut comprendre hein, que quand vous êtes dans une école de conduite avec leur moto, ben c'est des types de motos adaptés hein, pour l'apprentissage. Maintenant, vous sortez de l'école, vous avez votre permis, et là, vous allez chercher votre moto drive. Et puis, bon, si c'est un baby boomer qui revient et puis que ça fait 35 ans qu'il n'a pas roulé, ben on s'entend 30 ans qu'il n'a pas roulé, on s'entend que ce monsieur-là, ben il n'a pas besoin de conduire. Puis on a souvent la petite ligne assassine. Ah ben c'est comme un vélo, ça se perd pas la moto, mais non, ça se perd, puis ces gens-là sont à risque. Alors, ils vont chercher leur bolide de leur rêve, peu importe ce que c'est. Même chose pour les nouveaux motocyclistes qui sortent de l'école. Ils vont chercher un autre type de moto qui est à leur budget, parce que le monsieur disait tantôt, une moto, c'est entre 25 et 30 000 $. Ben, un certain type de moto à ce prix-là, on s'entend. Mais il y a aussi toute l'autre gamme, là, qui est de 10 000. Il y a les motos usagées. Bon, il y en a de tous les prix, des motos. Et puis, faut passer du temps avec la moto qu'on a choisie pour refaire les bases, pour réapprendre comment ça fonctionne, le type de moto qu'on a choisi, vous savez. Fait que de cette façon-là, ben au moins là, puis ça, c'est progressif. Hein? Il y a tout le côté expérience. Monsieur tantôt parlait d'adapter sa vitesse. C'est adapter sa vitesse aux conditions du trafic. Trafic est tranquille, on va tranquille. Trafic est plus rapide, ben faut prendre des décisions, faut se commettre. Faut éviter l'hésitation. Savez, quelqu'un qui est pas sûr de où ce qu'il va, puis ben ça se transmet dans notre comportement. Alors les automobilistes, ben ce qu'ils doivent voir aux autres, c'est un, nous les motocyclistes, faut qu'on soit visible et aussi agir de façon prévisible, signaler nos intentions d'une façon positive pour que les automobilistes nous remarquent, comprenez? Et puis, naturellement, c'est de conduire naturellement comme si on était invisible. Ça fait partie de la culture du motocycliste qui survient. Mais encore une fois, oui, c'est du gros bon sens. Le monsieur dit tantôt, il n'y a pas de moto à risque, il y a l'individu. Mais il y a un certain type de personnes qui vont aller choisir des certains types de motos. Bon, mais malheureusement, ça ressort dans les statistiques maintenant. Quel crédit qu'on a aux statistiques qui nous sont présentées.
Ouais.
Il y a plusieurs écoles de conduite, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais il suffit de savoir que les gouvernements, la SAC, la QTA qui régit les écoles de conduite, tout ce beau monde-là, ben, ça travaille quand même à supporter une bonne économie, parce que les motos au Québec, ça représente plusieurs centaines de millions de dollars.
Il y en a combien de motocyclistes en terminant, M. Bergeron, au Québec?
Il y en a environ 210 000, 215 000, là, selon... Puis de chaque année, à chaque année, depuis 5-6 ans, on en parle 6-7 000 de plus. Puis pour les Spyder, un petit fait, 36 % des ventes de Spyder cette année ont été achetées par les femmes. Donc, oui, donc la femme revient en force à la moto, que ce soit deux roues ou trois roues, on s'entend. Donc, puis naturellement, si on regarde la pandémie, le budget accordé aux vacances est éliminé.
Ah, c'est
donc,
sûr, c'est sûr qu'on risque. On va s'en reparler de toute façon au cours des prochaines semaines. On va suivre ça, puis on va espérer qu'il n'y ait pas trop d'autres accidents, bien sûr.
Oui, puis on va avoir probablement des bonnes nouvelles à vous annoncer aussi, que ce soit à différents niveaux. On a une campagne de promotion qui s'en vient sur la sensibilisation pour les motos, les usagers de la route.
Parfait.
Merci de m'avoir donné la chance de parler.
Ben, merci à vous, Sylvain Bergeron, président de la Fédération motocycliste du Québec. Une nouvelle, justement, qui vient de tomber de dernière minute. Selon Radio-Canada, le Grand Prix du Canada cet été à Montréal serait annulé. Philippe Quentin, mon collègue de 98.5, est là. Bonjour, Philippe.
Salut Isabelle.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle surprenante? Parce que la semaine dernière, gros débat, puis tout le monde était comme plus ou moins convaincu là, que c'était important pour les retombées. Mais là, finalement, annulation du Grand Prix du Canada?
Ben, écoute, si la nouvelle se confirme, là, je pense que ça s'explique facilement. Il y a deux enjeux clés, à mon avis. D'abord, celui de franchir la frontière. On sait qu'il y a une quarantaine qui est encore obligatoire là, pour des visiteurs étrangers qui arrivent au Canada. Il y a certains accommodements qui ont été faits pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, mais là, on parle quand même d'un joueur qui est échangé d'une équipe américaine à une équipe canadienne, donc c'est certainement plus facilement gérable que le grand cirque de la Formule 1 qui débarque là avec des centaines et des centaines de personnes. Alors, je pense que dans le contexte actuel de la pandémie, où tous les jours, nos premiers ministres, autant celui du Québec que celui du Canada, nous répètent que la situation est très dangereuse, que le variant a son lot de pièges immenses là, qui nous guettent, décider de rouvrir la frontière et de dire à tous ces gens-là, oui, oui, venez-vous-en, bienvenue, les retombées économiques sont plus importantes, je pense que ça tenait pas la route. Ça aurait aussi ouvert la porte, Isabelle, à des demandes de d'autres organisations. Je pense par exemple au club de football Montréal qui espère jouer des matchs à domicile. Les jeux au tennis aussi, ben c'est plus tard dans la saison, mais c'est ouvre une fenêtre là qui est délicate à mon avis. Et le deuxième point, le deuxième facteur, c'est que je pense que même au niveau du Québec, politiquement, ça aurait été très difficilement vendable l'idée de tenir le Grand Prix. Nos enfants au cégep, aux universités vont pas à l'école. Dans des écoles, c'est un jour sur deux. Les contraintes sont encore très fortes. On a un couvre-feu à 8 heures et là, on dirait à la Formule 1, oui, oui, venez-vous-en. Tu sais, je pense que politiquement, là, tous les gens y auraient vu avec raison une politique deux poids, deux mesures.
Donc, ça te paraît être une décision de santé publique, Philippe?
Oui, je pense que oui. Je pense que c'était ça m'apparaît clair. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas du tout dans une période de relâchement. M. Legault disait plus tôt cette semaine qu'on avait une période de 73 jours là, à compter du début de la semaine, très difficile jusqu'au 23 juin. Le Grand Prix, c'est avant le 23 juin, là, c'est à la mi-juin. Alors, arriver aujourd'hui puis faire une exception pour la Formule 1, annoncer ça aujourd'hui, je pense que ça aurait véritablement très mal passé.
Ouais.
Pourquoi aurait-on fait des aménagements pour la Formule 1 alors qu'on n'en fait pas pour les citoyens en général? Et si on ne les fait pas pour les citoyens en général, parce qu'on dit que c'est la santé publique qui doit être priorisée, ce qui est certainement le cas, là, avec raison. Je vois mal comment on aurait pu dire à la Formule 1, oui, venez-vous-en. Je comprends la crainte que M. Legault a exprimée. Là. Il s'est dit que si jamais on ne présente pas le Grand Prix cette année, est-ce que ça peut mettre en danger la présentation du Grand Prix jusqu'en 2029? Parce qu'il faut rappeler que le contrat de Montréal avec la Formule 1 va jusqu'en 2029. Mais tu sais, habituellement, dans ce type de contrat-là, là, je connais pas les détails exacts de celui-là, mais il y a des clauses de force majeure.
Voilà, exact.
Tu peux pas tenir un événement s'il y a un tremblement de terre ou s'il arrive une catastrophe naturelle. Et tu peux pas être tenu responsable de ça.
Voilà.
Quand tu es l'organisateur. Et là, ben, je pense qu'on est dans un cas de force majeure. Là. La société est sur pause depuis des mois et des mois. On sent que peut-être que la fin s'en vient, mais la date à laquelle ça arrivera vraiment, c'est certainement pas déterminé encore. Alors, dans ce contexte-là, je pense que c'était un mauvais timing pour le Grand Prix du Canada. Si la course avait été prévu au mois d'octobre, au mois de septembre, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais là, à ce moment-ci, ça m'apparaît prématuré. Je pense que les gouvernements n'avaient pas le choix.
Trop tôt dans le calendrier. Ben, merci beaucoup, Philippe Cantin, de nous avoir parlé de ça. On t'écoutera, bien sûr, dans l'émission de notre ami Patrick. Merci,
okay,
Philippe.
OK, Isabelle, merci. Bonne journée.
OK, bon, ben voilà. Grand Prix, c'est selon Radio-Canada, bien sûr, mais je pense que c'est une nouvelle qui va se confirmer au cours des prochaines minutes. Bon, on va s'arrêter ici parce que je vous avais promis que vous aurez le temps de rendre hommage à Michel Louvain. On va lui rendre hommage. On a des invités qui vont nous en parler, nous dire à quel point cet homme-là, qui nous plonge un peu tous au Québec dans une profonde tristesse parce qu'on l'aimait, on aimait ce qu'il représentait, on aimait surtout l'homme parce que, oui, on l'a dit beaucoup déjà depuis hier, c'est un gentleman. Moi, ce qui m'a frappé à réentendre Michel Louvain dans des entrevues, c'est la qualité de sa langue aussi, la façon dont il parlait, la façon dont il s'exprimait. Et que dire de ses chansons? On vous en parle. Et puis surtout, je veux vous entendre sur lui tout de suite après ceci.
Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor.